Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des situations assez complexes qui évoluent en Afrique de l'Ouest et centrale.
Oui, bonjour. On a des infos qui parlent de complots présumés au Burkina Faso, d'appels au dialogue en Côte d'Ivoire, et puis de mouvements militaires importants en RDC.
C'est ça. On va essayer de décrypter un peu tout ça à partir des dépêches, de comprendre les enjeux internes, régionaux.
Et externes aussi, bien sûr. C'est dense. Alors par où on commence? Le Burkina, peut-être? La tension y semble assez palpable.
Oui, allons-y. Le premier ministre burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a été assez direct. Il parle d'une volonté claire de déjouer toute tentative de déstabilisation.
Et il pointe, même si c'est pas hyper détaillé, des actions venant de Côte d'Ivoire. C'est fort comme accusation.
Très fort, mais il ajoute quelque chose d'intéressant. Pas de tension entre les peuples, dit-il. Il désigne plutôt un même maître impérialiste.
Cette rhétorique, elle est pas nouvelle, mais elle prend un relief particulier dans le contexte actuel. Instabilité depuis 2014, la lutte anti-djihadiste, le gouvernement de transition du capitaine Traoré.
C'est une affirmation de souveraineté en somme.
Tout à fait. Une ligne souverainiste très marquée. Et ça semble trouver un écho.
Apparemment, oui. Les sources parlent d'une grosse mobilisation à Ouaga, là, le 30 avril, organisée par la CNAVC en soutien au capitaine Traoré.
Ah oui, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. C'est une réponse sans doute aux critiques externes. On a entendu parler de celle du général américain Langley sur l'or, par exemple.
Et il y a aussi ces histoires de complots internes, d'arrestations de militaires.
Exactement. Le parallèle avec l'époque Sankara est souvent fait. C'est pas anodin. Ça vise à ancrer le régime dans une légitimité historique. Ouais, de résistance, quoi.
Et au niveau régional, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ça bouge aussi?
Oui, le Premier ministre a mentionné des progrès de leurs forces conjointes. Il a réaffirmé le droit du Burkina de choisir ses partenaires.
Il a cité la Russie ouvertement, je crois.
C'est ça. Une affirmation d'autonomie stratégique très claire. Et en parallèle, ils mettent en avant des projets internes. Dette intérieure, énergie thermique, solaire.
Bon, cette posture très affirmée au Burkina, ça contraste un peu avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, non? Là, c'est plus politique interne, la tension.
Ouais, c'est différent. En Côte d'Ivoire, après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, c'est Charles Blé Goudé qui appelle à un nouveau dialogue.
Lui qui est inéligible aussi d'ailleurs, comme Gbagbo, comme Soro.
Précisément. Son argument, c'est « Faisons un dialogue pour la paix, ce n'est pas une question de qui gagne ou perd les élections ».
Et la réponse du gouvernement?
Ben, c'est non. Le porte-parole Amadou Koulibaly a été catégorique. Pas de nouveau dialogue.
Ah bon? Pourquoi ce refus si l'objectif c'est la paix?
L'argument officiel, c'est que le dialogue précédent, celui qui s'est fini en mars 2022, a mis en place des institutions qui fonctionnent. Donc pour eux, le cadre légal actuel suffit pour préparer 2026.
En gros, rouvrir le dialogue, ce serait remettre en cause ce cadre?
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup, la situation politique semble assez bloquée. Ça pourrait crisper les choses à l'approche des élections.
D'accord. Et si on traverse le continent, direction la RDC, au nord Kivu, là c'est carrément des mouvements militaires complexes.
Ah oui, là c'est une autre échelle, hein. Le 30 avril, on a appris le début de l'évacuation de 1400 militaires et policiers congolais.
Ceux qui étaient réfugiés dans la base de la MONUSCO à Goma.
Exactement. Depuis la prise de Goma en janvier par l'AFC M23, cette alliance fleuve Congo alliée au M23 qui est soutenue par le Rwanda d'après de nombreux rapports.
Une évacuation pareille, c'est énorme. Comment ça s'organise? C'est volontaire, mais...
C'est volontaire, oui. C'est encadré par le CICR qui a bien vérifié le consentement de chacun. La MONUSCO et le gouvernement congolais sont aussi impliqués, bien sûr.
Et concrètement, ils vont où?
Alors, transfert par route, puis héliportage vers Mavivi et ensuite direction Kinshasa. C'est une opération lourde, hein, prévue sur 10 jours. Et apparemment, c'était une condition posée par l'AFC M23 pour rouvrir l'aéroport de Goma.
D'accord. Mais il n'y a pas que les Congolais qui partent de Goma?
Non, effectivement. La veille, le 29 avril, ce sont les troupes de la SDAC qui ont commencé leur retrait.
La force régionale d'Afrique australe?
C'est ça. Un retrait négocié aussi avec le M23 et l'itinéraire est assez notable.
C'est-à-dire?
Il passe par le Rwanda pour rejoindre la Tanzanie.
Par le Rwanda? Malgré les tensions?
Bah oui, l'aéroport de Goma n'est pas utilisable pour eux et la voie terrestre directe était jugée trop risquée. L'Afrique du Sud, notamment, a perdu 14 soldats.
Ah oui, c'est vrai. Cette mission de la SDAC, elle avait été lancée en décembre 2023 pour stabiliser le Nord Kivu.
Oui, mais elle a eu beaucoup de difficultés, elle a été critiquée, surtout en Afrique du Sud. Leur retrait complet est prévu d'ici fin juin 2025.
Donc on a les forces congolaises évacuées, la SDAC qui se retire, ça crée un vide, non?
Ben, c'est la grande question. Ces départs quasi simultanés, ça change complètement la donne sécuritaire. Et ça pose la question, comment les autorités congolaises vont gérer ça seules? surtout dans cette région.
C'est extrêmement instable, oui. Donc, si on essaie de résumer, Burkina, affirmation de souveraineté peut-être face à des menaces réelles ou perçues.
Côte d'Ivoire, dialogue politique au point mort, tension interne.
Et RDC, un désengagement militaire international majeur en pleine zone de conflit. Partout, on voit ces défis de stabilité, ces jeux d'influence.
Et le rôle changeant des alliances, qu'elles soient régionales comme l'AS ou la SADC, ou internationales comme la MONUSCO.
Ces trois situations, même si elles sont très différentes, elles illustrent bien les grands enjeux actuels. Souveraineté, sécurité, coopération en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est crucial de suivre ça.
Absolument.
Et peut-être une dernière question pour réfléchir. Face à tout ça, les accusations d'ingérence, les retraits de forces internationales, les blocages politiques internes, est-ce que les nouvelles alliances régionales, comme l'AS justement, pourraient vraiment redéfinir les équilibres et les stratégies de souveraineté sur le continent?
C'est une excellente question. Quel rôle peuvent-elles jouer réellement? Vont-elles proposer une alternative crédible? C'est sans doute un des points clés à observer dans les mois et années à venir.